dirais que beaucoup de choses, mais comme passion, la gastronomie et la géologie. J'aime bien la gastronomie, j'aime bien la géologie. Et la géologie est mon métier.
Attendez, parce que là, on va pas marcher trop vite.
Bonjour, en compagnie de Daniel Wörling. Nous accompagnons dans la rue Pierre Thomas, professeur de géologie à l'École normale supérieure de Lyon. Pierre Thomas est intervenu dans le cadre des conférences de la Société d'astronomie de Nantes sur le thème « L'eau dans le système solaire ».
Est-ce qu'un prénom détermine une vocation ?
Ben, je sais pas, mais si vous pouvez faire gueuler, je m'appelle Pierre, je suis géologue, et j'habite rue des Trois-Pierres. Il y a des gens qui me demandaient si je l'ai fait exprès, non, mais voilà. J'habite rue des Trois-Pierres.
Qu'est-ce qui vous a amené à la géologie ?
Je peux pas vous dire. J'ai commencé à ramasser des cailloux depuis l'âge de 8 ans. C'est un peu à cause d'un instituteur. Enfin, tous les élèves de cet instituteur ne sont pas devenus géologues. Quand 10 ans, 15 ans, me demandaient ce que je voulais faire comme métier, je vous disais géologue. Je ne sais pas ce que c'était, mais... Et puis j'ai toujours voulu faire ça. Ça n'a pas toujours été facile. Mais voilà.
Et vous intéressez à la géologie de l'espace ?
Aussi, l'astronomie, j'aimais bien. L'astronomie, quand j'étais pareil, j'habitais en Auvergne, il y avait des associations d'astronomes amateurs. J'aimais bien l'astronomie, pas trop l'observation, parce que regarder Vénus, c'est joli 5 minutes, mais bon... Par contre, voir comment marche le ciel et tout ça, ça m'a intéressé. Alors, la géologie des planètes, c'est l'intersection entre la géologie et le système solaire.
Quand on est géologue, pourquoi s'intéresser à l'eau ?
Parce que... Comment dire ? L'eau, c'est pas grand-chose, hein, c'est même pas 1 pour 1000 de la masse de la Terre, mais ça a quand même complètement façonné la Terre. S'il n'y avait pas d'eau, la Terre, aussi bien interne qu'externe, ne serait pas ce qu'elle est, et la vie, n'en parlons pas. Donc l'eau est quand même quelque chose d'important sur Terre, bien que ça ne fasse même pas 1 pour 1000 de la masse.
C'est une toute petite partie de vos centres d'intérêt, hein, l'eau.
Oui, non. Dans le système solaire, on peut parler de l'eau, de la vie, du volcanisme, il y a plein de sujets... Vachement passionnant sur le système solaire.
D'après vous, où il y a le plus d'eau dans le système solaire ?
Alors, c'est une bonne question. Comme ça, je pourrais être tenté de dire que c'est sur la Terre, mais finalement, si on réfléchit bien, c'est peut-être dans les comètes qu'il y a le plus d'eau.
C'est pas mal, hein.
Mais...
Ça dépend de parler en proportion ou en quantité absolue.
Alors, là, ça devient trop précis pour moi.
Je pense que c'est tout petit.
C'est tout petit, effectivement. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt dans les comètes qu'il y a le plus d'eau.
Vous avez un peu faux, quand même. Il y a des corps, qu'on appelle les satellites de glace, qu'on est Ganymède, qui est un satellite de Jupiter. C'est plus gros que Mercure.
D'accord.
Et en masse, c'est la moitié d'eau.
D'accord.
De glace, évidemment, vu la température.
Mais c'est vrai que le premier réflexe, dire sur la Terre...
Voilà, mais la Terre en masse, c'est que 1 pour 1000.
Oui. Ouais.
C'est 3 quarts en surface, mais il y en a si peu épais.
Il y a très peu d'épaisseur, effectivement.
Et les comètes, c'est une bonne réponse.
Ouais. L'eau est-elle potable dans tout le système solaire ?
Elle doit être assez salée. Hein. Mais vous connaissez la meilleure définition de l'eau ? Ouais. C'est que c'est un liquide si impur qu'une seule goutte suffit à troubler tout un verre de pastis.
Ah, ça...
Bonne définition.
Ouais. C'est une très bonne définition, effectivement.
Le système solaire, c'est au point de vue... Alors, si on prend au point de vue quantité, c'est d'abord le Soleil. 999 pour 1000 de la masse. Ensuite, c'est Jupiter, qui doit faire les 4/5 de ce qui reste. Puis ensuite, c'est les planètes géantes, vu Saturne, Uranus, etc. Les cailloux comme la Terre, c'est pas grand-chose. Alors, les astéroïdes ou les comètes, c'est encore beaucoup moins en proportion. Donc.
Quel a été l'ordre des recherches ?
L'eau, avant, on ne savait pas s'il y en avait ou il n'y en avait pas. C'est sur Mars qu'elle a été découverte pour la première fois. À votre avis, quand est-ce qu'on a trouvé qu'il y avait de l'eau sur Mars ? 1666.
Oui, 17e siècle. Oui.
17e siècle, c'est Louis XIV. Alors, on avait vu des calottes polaires qui étaient grandes l'hiver, petites l'été. On a dit, bon, ça doit être de l'eau. Et la preuve que c'était de l'eau, c'était en 1964, par des études spectrales depuis la Terre. Alors ensuite, on savait que les satellites de Jupiter et de Saturne n'étaient pas lourds, enfin pas denses plutôt. Donc on s'est dit, ça devait être de l'eau, sous forme de glace, vu la température. Enfin, l'eau doit être un constituant majeur, mais c'était pas sûr, ça aurait pu être un autre corps peu dense. mais sur ce, dans l'univers, c'est de loin l'eau qui est la molécule la plus abondante. Parce que l'atome le plus abondant, c'est H. Ensuite, il y a l'hélium, mais c'est un gaz inerte sans réaction chimique. J'ai l'habitude de dire que c'est à l'extrême droite de la classification périodique de Mendeleïev, parce que c'est vrai, et que tout ce qui est à l'extrême droite, c'est totalement asociaux, donc il s'associe avec rien. Ça, c'est vrai, mais c'est une opinion aussi. Donc l'hélium ne compte pas. Et le deuxième atome qui arrive, c'est l'oxygène, le deuxième atome réactif. Donc, que l'eau, qui soit formée d'hydrogène et d'oxygène, soit très abondante, c'est parfaitement normal. Alors, puis on s'est mis à en trouver partout, depuis qu'on explore le système solaire. Si vous prenez l'eau sous tous ses états, s'il fait très froid, c'est de la glace, c'est très stable. S'il fait très chaud, c'est de la vapeur, c'est très stable. Ce qui est peu stable, c'est l'eau liquide, où il y a des conditions strictes. Mais l'eau vapeur ou l'eau glace, c'est stable tout le temps. Enfin, tout le temps. C'est stable. Alors, on en a trouvé dans les nébuleuses, les anneaux de Saturne, partout. L'eau, je vous dis, c'est la deuxième molécule la plus abondante de l'univers. La première étant H2. Donc, elle est partout. Alors, elle est très minoritaire, parce que ce qui est majoritaire, c'est l'hydrogène et l'hélium. Donc l'eau, ça doit être, je ne sais pas, 1 pour 10 000 de la masse de l'univers. Mais c'est quand même le troisième composé si on met l'hélium. Donc voilà. L'eau est partout, mais rare. Mais moins rare que le reste.
Il faut un certain nombre de conditions pour qu'elle soit liquide.
Il faut que la température soit inférieure, ça dépend de la pression. Il faut que la température soit supérieure à, on va dire 0 degré pour simplifier, c'est pas exactement 0, mais on va dire 0 degré pour simplifier. Et si elle est pure, si elle est salée, ça peut descendre beaucoup plus bas. Vous savez que quand on met du sel sur de la glace, ça fait de l'eau salée liquide. C'est pour ça qu'on en met sur les routes l'hiver. Donc ça peut aller quasiment jusqu'à moins 100 degrés s'il y a un mélange d'eau et d'ammoniac. Et alors le plus liquide, on peut aller jusqu'à 200 à 300 degrés si la pression est ce qu'il faut. Après, ça devient un autre état qu'on appelle l'état supercritique. Une question que j'aime bien poser aux gens, c'est quels sont les 5 états de la matière ? Parce que les gens connaissent 3, ils ne connaissent pas les deux autres. Et un des deux autres, c'est l'eau supercritique.
Surfusion, non, comme le verre.
Elle est liquide, elle est solide ou liquide, mais elle est l'un ou l'autre. Supercritique, c'est un état qui n'existe pas dans la vie de tous les jours. Donc je ne peux pas vous donner un exemple de... C'est un fluide, mais qui n'est ni liquide ni gazeux. Il est supercritique.
Aux gens de ne pas le connaître.
Non, mais ils utilisent plus ou moins tous les jours l'usage qu'on en fait sans le savoir. Dans le temps, pour décaféiner le café, on prenait du benzène. Puis s'il y a des résidus, comme c'est cancérigène, c'est pas bon. Or, les fluides supercritiques, l'eau supercritique, mais le CO2 supercritique ou d'autres, ça dissout vraiment énormément de choses. Et maintenant, on enlève la caféine dans le café décaféiné grâce à du CO2 supercritique. Voilà. Donc à chaque fois que quelqu'un prend du café décaféiné, il utilise, sans le savoir, les propriétés solvantantes extraordinaires des fluides supercritiques.
Voilà. Donc ça, c'est le quatrième état.
Le cinquième état, c'est le plasma. Ça, un astronome devrait connaître, le plasma.
C'est les protons et les électrons
qui sont complètement non attachés l'un à l'autre.
Voilà, qui ne forment pas des atomes, des unités, mais qui forment une espèce de soupe.
Une soupe bizarre. C'est mou, mais c'est ni liquide ni gazeux. C'est plasma.
Je propose de faire une photo originale. Pour une fois, il n'y aura pas d'eau à la fontaine.
Il n'y aura pas d'eau.
Et pour un soir, sur une conférence sur l'eau, ça, c'est formidable.
Je vais mettre mon bonnet parce que j'ai froid.
Il y a de l'eau partout.
Il y a de l'eau partout.
Mais sur pas, différentes elle, formes.
Elle est rarement liquide.
Et dans différents endroits. C'est-à-dire voilà. Sur Mars,
elle est glacée et gazeuse en surface. Il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il y a de la glace dans l'atmosphère. Et toutes les nuits, il fait encore plus froid qu'ici, Mars se recouvre de givre. Si vous prenez une photo au petit matin, avant que le soleil se lève, Mars est blanc de givre. Donc il y en a partout de l'eau. Seul endroit, l'endroit peut-être où il y en a le moins, c'est Vénus.
500 degrés,
mais elle pourrait être vapeur. Or, il n'y en a pas. Donc la grande question, c'est où elle est.
Et la grande réponse.
Alors, la réponse que tout le monde dit, il y en a deux qui ne sont pas forcément compatibles. La première réponse que tout le monde dit, c'est que près du Soleil, il y a beaucoup d'ultraviolet. Elle a été cassée, la molécule d'eau H2O a été cassée par les ultraviolets solaires. L'hydrogène est parti et l'oxygène a oxydé le sol. La deuxième réponse, qui n'est pas incompatible, je suis incapable de vous dire les proportions de l'une ou l'autre, c'est que l'eau à 500 degrés, 400 degrés, peut très bien réagir avec les silicates. Par exemple, s'il y a de l'olivine, qui est un silicate ordinaire, et de l'eau, ça fait un nouveau minéral qu'on appelle la serpentine. Et peut-être que l'eau de Vénus est dans de la serpentine.
Ça nous rapproche de l'astronomie avec le serpentaire. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudra pour vérifier?
Il faut y aller sur place.
Ça, c'est pas évident encore.
Non. Je dis pas qu'on peut faire des spectres, tout ça, parce que Vénus est recouvert de nuages, on ne voit jamais la surface. On connaît la surface par le radar. Il y a des radars qui ont été mis en orbite. Et il y a 4 ou 5, je ne sais plus le nom, mais de sondes soviétiques, qui, donc avant 89, ça c'est dans les années 70, les sondes Venera, qui se sont posées sur Vénus, qui ont marché, c'était prévu à peu près une demi-heure, parce que comme il fait 400 degrés, il y avait une bonne isolation thermique, mais c'est jamais très parfait, et quand vous êtes dans un machin à 400 degrés, ça chauffe, et l'électronique a horreur de la haute température. Donc les sondes sont mortes de chaud. De collision avec quoi? Si vous prenez des astéroïdes, l'astéroïde moyen, il a moins d'1% d'eau. Il y a quelques astéroïdes qui en ont plus, mais l'astéroïde moyen en a 1%, quelques pourcents. Si vous prenez les comètes, c'est quelques dizaines de pourcents d'eau, on va dire 50 à 60. Alors, toutes les collisions qui sont le système solaire externe, c'est doit être surtout des comètes, et là... Mais par exemple, si vous voulez rendre Mars habitable, il y a des gens qui fantasment comme ça, ils veulent polluer tellement la Terre qu'on soit obligé d'émigrer ailleurs. Pour amener de l'eau sur Mars, il faudrait dévier des comètes, ça serait un moyen. Et les faire s'écraser sur la planète. Mais il ne faudra pas se tromper, parce qu'il y a des comètes qui sont riches en acide cyanhydrique aussi.
Oui, mais ça fait peur aux gens.
Ça a fait peur aux gens en 1910, oui. Parce qu'il y a la comète de Halley qui est passée pas loin de la Terre, et même la Terre a traversé la queue de la comète. On venait de découvrir la spectroscopie, et on a découvert les raies spectrales de la molécule HN, c'est l'acide cyanhydrique, qu'on appelle des fois l'acide prussique, c'est le poison des espions, c'est la pilule de cyanure. Hein. Et il y a des gens qui ont dit qu'il y a de l'acide cyanhydrique dans la queue de la comète.
Il n'y en a pas qui se sont suicidés de peur de mourir. Suicidés,
mais il y a surtout des escrocs qui ont fait profiter de la crédulité publique et qui vendaient des pilules anti-comètes, du machin. Et il y en a qui vendaient des canaris en cage en disant que le canari, dès qu'il y a des gaz, c'est dans les mines, il tombe. Et si vous voyez le canari qui s'asphyxie, vous rentrez vite chez vous, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui se sont fait de l'argent grâce à l'utilité publique. Ça continue encore, hein, les gens qui se font des sous grâce à la crédulité publique.
Merci à Pierre Thomas, professeur de géologie à l'École normale supérieure de Lyon, et merci à
Thierry
pour leur libre participation à ce reportage réalisé en compagnie de Daniel Wörling, président de la Société d'astronomie de Nantes.
Qu'est-ce que vous retenez de cette petite interview courte? Parce que d'habitude, on fait plus
voilà, ben elle est fraîche.
En marchant.